Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles est l'invité du jour, docteur Agnès Conda, qui est pédopsychiatre. Et on parle de la difficile, délicate prise en charge des enfants transgenres. On écoute docteur Agnès Conda. Important, sensible et complexe, ce sujet, la prise en charge des enfants transgenres. Docteur Agnès Conda, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans la maison des maternelles. On est ravis de vous accueillir sur ce sujet dont j'ai l'impression on en parle tous beaucoup sans jamais en parler vraiment. Donc on va faire un point avec vous. Vous êtes pédopsychiatre à la Pitié-Salpêtrière. Vous venez de signer avec des membres d'associations, des personnalités médicales, une tribune pour une grande remise en question de notre manière de prendre en charge les enfants transgenres. On peut rappeler en une phrase ou deux de quoi on parle quand on parle d'enfants transgenres?
Oui, donc une personne transgenre, quel que soit son âge, c'est une personne qui ressent une inadéquation entre le sexe qu'on a inscrit sur son acte de naissance et son ressenti profond concernant son identité de genre.
Le propos de base, votre propos de base est de dire ces enfants, parce que là on parle spécifiquement des enfants, ils existent, on doit répondre à leurs besoins. On se ferme encore les yeux sur ces enfants-là?
Alors, je dirais que paradoxalement, il y a plus de visibilité par rapport à ces enfants. Leurs droits sont de mieux en mieux reconnus. Et en même temps, il y a une peur. Ils sont confrontés à des mouvements de peur ou d'incompréhension qui vont conduire certaines personnes, voire certains groupes, à effacer leur identité, comme si le fait d'être transgenre, c'était finalement causé par un trouble psychiatrique ou par un embrigadement des réseaux sociaux. Et donc, vous voyez, il y a ces deux dimensions.
Certains dénoncent la mode qu'il peut y avoir à être transgenre. Mais tout comme, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on disait sur l'homosexualité, que certains continuent de dire, mais il y a une génération ou deux.
Alors, il y a effectivement, si vous voulez, moi, en tant que pédopsie, je vois un point commun entre les deux, c'est que ce sont deux façons d'être au monde en n'étant pas tout à fait dans la norme au sens statistique, dans la majorité. Ouais. Et que ça vient quelque part bousculer du coup les repères selon lesquels la société s'est construite et la plupart des gens, la majorité des gens s'est construite. Alors dans le cas de l'homosexualité, ça vient bousculer le repère selon lequel les hommes sont attirés par des femmes et les femmes par des hommes. Et du côté des trans, ça vient bousculer le repère selon lequel le sexe et le genre finalement doivent être alignés. Mmh.
La base, c'est la reconnaissance de l'existence de ces enfants. Le premier droit, vous dites, c'est la reconnaissance de leur identité de genre avec prénom d'usage, pronom. Typiquement, en termes de droit, ce qui peut paraître simple, c'est d'inviter le personnel éducatif à respecter le prénom d'usage des enfants trans. Mm. Ce n'est pas toujours le cas.
Alors, ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'est très important.
Concrètement, ça veut dire aller voir le directeur de l'école ou le CPE pour lui dire « j'aimerais être appelé comme ça à l'école ».
Oui, concrètement, pour ces enfants et les familles, puisque je rappelle que d'après cette circulaire, il faut l'accord des deux parents pour que ça soit possible. Donc, ce sont des familles avec leur enfant qui viennent voir le proviseur ou le directeur quand ce sont des plus jeunes pour demander à être appelé par un autre prénom que le prénom de naissance et à être genré avec d'autres pronoms, c'est-à-dire qu'on dise « il » ou qu'on dise « elle », ce qui n'était pas le cas avant.
Et donc, vous, avec vos patients, ça ne se passe pas toujours bien? Parce que là, ça ne paraît pas insurmontable.
Alors,
cette
honnêtement, étape-là. Ça se passe de mieux en mieux. Ouais. La circulaire a beaucoup aidé à ce que ça se passe bien. Mmh. Après, je dirais que le travail, il est beaucoup en amont, entre les enfants, les parents, un accompagnement des familles. On passe je dirais presque autant de temps à échanger avec les parents qu'avec les jeunes.
C'est un choc souvent pour les parents ?
Souvent, oui. Souvent, ça vient bouleverser un équilibre familial. Mmh. Ça vient questionner chacun, finalement, dans son identité profonde, dans ses valeurs. Et les jeunes parlent de transition, mais c'est finalement une transition aussi pour la famille.
Ouais. Et puis, on a envie d'accompagner ces enfants qui, souvent, vont mal. Ça, ce sont les statistiques, les enquêtes. L'enquête française Virage LGBT de l'Institut national d'études démographiques qui dit que 6 jeunes trans sur 10 subissent des violences intrafamiliales, 1 jeune trans sur 5 est exclu de domicile parental, 8 sur 10 subissent des violences dans l'espace public. Ça reste, le mal-être de ces enfants est très perceptible.
Oui, merci de rappeler ces chiffres, parce que c'est vraiment pour protéger ces enfants, pour pouvoir construire un environnement protecteur, il faut que les gens puissent prendre conscience de ces faits, puissent prendre conscience de la violence, du regard social, de la force du regard négatif qui peut être porté sur ces jeunes et effectivement qui les empêche de se construire.
Vers quel âge les enfants commencent à peuvent avoir ces ressentis, ces questionnements sur le genre ?
Alors, ça peut, disons qu'il peut, il peut en être question très jeune. Hein. On voit des enfants dès l'âge de 3 ans, en fait, dès que les enfants savent parler. Mais pour d'autres, ça peut être une question seulement à l'adolescence.
Ouais, parce que j'ai l'impression que moi, vers 3-4 ans, tous les enfants posent des questions sur le genre. Dans quelle mesure, ce n'est pas uniquement une question sur « tiens, j'ai un zizi, pourquoi je n'ai pas autre chose ?»
Alors, en fait, les enfants qu'on reçoit, bon, d'abord, ce sont les parents qui les amènent, évidemment, à 3 ans. Donc, ce sont les parents qui se posent les questions. C'est ça. Plus que les enfants, et ils se posent les questions parce que les enfants affirment en fait être d'un genre qui ne correspond pas à leur,
ils sont affirmatifs,
à leur anatomie. Carrément. Ça va être un petit enfant qui est né garçon et qui va dire « moi pas garçon, moi fille, plus tard je serai une maman ouais. » qui va, alors un peu, pas à 3 ans, mais un peu plus tard vers 5-6 ans, qui va s'endormir le soir et qui va rêver que le lendemain matin il se réveillera sans pénis, qui va... demander aux fées, enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça qui vont inquiéter les parents.
D'accord. Effectivement, il y a un autre chiffre qui est très inquiétant. 86% de ces jeunes-là ont déjà pensé au suicide, 42% ont tenté de le faire. Oui. Donc, c'est toute l'importance de prendre sérieusement ce sujet, et pas uniquement comme il peut être caricaturé à certains moments, sur le regard des autres. Comment l'ensemble de la société peut faire en sorte d'amener un petit peu plus de bienveillance, je sais que ma question est compliquée, des enfants vis-à-vis de ces enfants-là?
Déjà, rien que le fait que vous en parliez là dans cette émission,
c'est
je
ça.
Pense que c'est ça. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est désacraliser, de banaliser en fait le
c'est
plus
ça.
Possible.
Ce genre et de sortir des fantasmes qui viennent finalement recouvrir les peurs, parce que oui, c'est pas ordinaire,
c'est pas simple.
C'est oui,
pas
mais je pense qu'il faut le dire aussi. Ça, il faut dire que c'est compliqué pour les parents et que c'est pas simple.
Et il faut le
simple.
Dire et il faut effectivement, il faut former. Il faut aussi former les professionnels de l'éducation nationale parce que là, on leur demande d'appliquer une circulaire, c'est très bien, mais c'est pas forcément évident non plus pour tout le monde. Il faut former les professionnels de santé qui, pour la plupart, sont pas formés. Et puis faire ce que vous faites, c'est-à-dire en parler et donner accès aux citoyens que nous sommes par rapport.
Et alors, verre à moitié vide, on en parle. Alors que c'est vrai que quand on était petit, moi, je n'avais jamais entendu parler de ce sujet. Alors qu'évidemment, il existait les mêmes problématiques. C'est pas une mode de 2023.
Alors, ce n'est pas une mode 2023. Après, il y a effectivement... La société évolue. Hein, et effectivement, actuellement, pour un ado, une ado, se demander si il ou elle est bien dans son genre... ça devient normal et ordinaire, alors qu'il y a 30 ans, 40 ans...
On regardait pour soi, quoi, éventuellement.
Oui, ou pour beaucoup, on ne se posait pas la question. Et puis, si on se posait la question, on n'en parlait pas forcément à son copain.
C'est ça, bien sûr.
Voilà, et on ne considérait pas que c'était normal de se poser cette question. Donc, c'est vrai que la société évolue, mais la société évolue dans tous les domaines. Et ce n'est pas parce que ça évolue qu'on peut dire que c'est une mode. C'est
non,
juste une évolution.
Merci au docteur Agnès Conda, merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast des maternelles. N'hésitez surtout pas à le faire circuler autour de vous, à ceux que ça pourrait intéresser. Merci, ciao tout le monde.